C'est le visage du stream politique français avec sa bande de chroniqueurs. Il reçoit à son micro Marine Tondelier, Xavier Bertrand ou encore Mathieu Pigaz. Voilà plus de 10 ans qu'il vulgarise en direct la politique pour les jeunes qui s'abstiennent aux élections davantage que le reste des Français. 56% des 18-24 ans ont boudé les urnes aux dernières municipales. Alors, pour les intéresser, pour leur faire comprendre, voire leur faire aimer la politique, il a lancé Backseat, un talk show que vous ne verrez pas à la télé. L'émission A 5 ans a déjà connu une présidentielle en 2022. Celle de l'année prochaine s'annonce plus ouverte. Et si les candidats faisaient un petit détour sur Twitch pour parler cash et se confronter aux questions du chat, Jean Massillet sera de la partie en live et en replay. Carte de presse, c'est parti.
Radio Campus Paris. Carte de presse.
Bonjour Jean Massillet.
Bonjour.
Vous êtes streamer, présentateur de Backseat, talk show politique diffusé en direct sur Twitch. Votre but, rapprocher les jeunes de la politique. On va parler de la présidentielle, de vos lives, des créateurs de contenu qui bousculent le monde de l'info. Mais d'abord, parlons des jeunes, ces jeunes que vous souhaitez rapprocher de la politique. C'est votre but originel. Ça fait maintenant 5 ans que Backseat existe. Ça fonctionne plutôt bien. Plus de 200 000 abonnés sur Twitch, 100 000 sur YouTube. Première question, mission accomplie.
La mission, elle est dure à accomplir parce que l'ambition est énorme. Quand on parle des jeunes, évidemment, la jeunesse, c'est une valeur relative. Nous, on parle d'un public qui est plus jeune que le public de la télé, ce qui n'est pas très difficile. Mais on est sur des vingtenaires et des trentenaires, je crois, en majorité pour les personnes qui regardent Backseat. Et la mission, elle est remplie puisque Backseat existe depuis 5 ans. Backseat est un talk show qui répond présent au rendez-vous. On essaye de faire une émission hebdomadaire, même si c'est difficile à financer. Et on fait un talk show d'actualité politique pour essayer de raccrocher les wagons d'un public indépendamment de son âge, qui est un public éloigné de la politique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller parler à ceux qui suivent la politique de très loin, avec un peu de méfiance, voire de rejet, et d'essayer de les convaincre que ça vaut le coup de s'y intéresser.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Backseat, on écoute un extrait.
On te connaît, François Ruffin, on te connaît sur ton discours sur les exclus de la société, t'es assez bien identifié dessus. On te connaît un peu moins bien sur les questions sociétales, alors que se pose la question en ce moment de la fin de vie, alors que des questions se posent sur les discriminations. C'est quoi ta candidature sur les questions sociétales? Où est-ce que tu veux emmener la société?
Vous savez, la question, c'est pas soit tout seul comme président de la République, c'est quelles sont les forces sociales qui vont l'appuyer. Mais moi, j'ai porté, comme je pense, c'était la quatrième mesure, puisque moi, les 10 mesures, je les avais faites dans ma circonscription. La quatrième mesure, c'était la fin des contrôles d'identité. Donc, voilà, on pose une direction qui dit il n'y a plus de contrôle d'identité, il n'y a plus de demande de papier quand il n'y a pas de délit qui est constaté.
D'accord.
Ça, c'est une chose. Après, je me positionne pour le changement de genre possible en mairie, sans avoir à passer devant un tribunal.
Extrait de votre émission donc diffusée l'année dernière avec François Ruffin, vous tutoyez les politiques.
Ouais, on tutoie les politiques qu'on connaît. Alors moi en l'occurrence mes chroniqueurs sont libres de tutoyer ou de vous voyez les politiques. Il y en a certains de mes chroniqueurs sont journalistes et se refusent au tutoiement et ils ont parfaitement le droit, j'ai aucun problème avec ça. En ce qui me concerne, je tutoie les politiques que je connais et que je tutoie hors antenne. Je veux pas faire de faux semblants sur le plateau, mais il y a tout un tas de politiques que je vous vois, notamment ceux que je rencontre pour la première fois de ma vie, je les vous vois évidemment, et puis ensuite on verra.
Ça fait partie du style de l'émission, du style Jean Messier.
Ouais. Bah c'est une émission qui se veut assez cash et sans phare, c'est-à-dire qu'il y a pas de faux semblants, on se dit les choses de manière assez crue. C'est ce que j'aime bien aussi dans le tutoiement, c'est que c'est une tradition française démocratique parlementaire. Les parlementaires se tutoient entre eux parce que ça permet d'avoir des discours et des discussions franches. On se dit les choses quand on se tutoie et je préfère poser la question de manière cash avec un tutoiement plutôt que de manière enroulée avec un vouvoiement.
Justement, vous dites, je vous cite, on se marre, on se tutoie, il n'y a que des gens d'Internet autour de la table. C'est vrai que dans Backseat, vous avez un ton plus libre, peut-être même plus naturel qu'à la télé. L'ambiance est plus détendue.
Ouais, moins guindée, ouais.
C'est comme ça qu'on touche les jeunes ?
Je pense qu'on essaye de dépoussiérer un petit peu les codes du talk show politique avec effectivement une ambiance qui est propre à Internet et à la culture web. On est tous issus de ce monde-là et on est dans un monde qui est effectivement moins guindé. On est en jean, basket, t-shirt, on se tutoie sur le plateau, on dit des gros mots, on se marre comme des cons. Ce qui nous empêche pas d'avoir des discussions passionnantes avec du fond juste derrière. Et c'est une émission que j'ai voulu assez fraîche. agréable à regarder. Parce que si c'est pour faire des colloques politiques à la Sorbonne, c'est bon, j'en ai déjà fait, c'est rébarbatif et ça n'intéresse que les étudiants en droit et en sciences politiques. Ça tombe bien, c'est justement ceux auxquels j'ai pas envie de parler. Donc voilà.
Mais la télé quand même, est-ce que vous la regardez
Pas du tout. Pas du tout, ça va faire 10 ans, 15 ans que je n'ai pas regardé la télé, que je n'en vois passer que des extraits sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire que je connais rien, je vois un petit peu ce qui se fait. Je reconnais que la télévision reste le média dominant en France et en politique. C'est encore à la télévision que se passe et que se font les choses. C'est là qu'on déclare sa candidature à la présidentielle. C'est là qu'on fait des meetings qui sont regardés par des millions de personnes. C'est là qu'il y a des débats pendant les élections, notamment présidentielles. Ça reste la télévision. Pour autant, c'est des codes, y compris des codes d'écriture, de grammaire journalistique que je ne connais plus.
La presse traditionnelle, la presse écrite, la radio, vous allez tout couper ?
Alors la presse traditionnelle, tous les jours. Ça pour D'accord. le coup, je suis un très très grand lecteur de presse. Je m'informe principalement grâce à la presse, je m'informe principalement sur l'actualité politique grâce à la presse. Et la radio, j'ai jamais l'occasion de l'écouter la radio. Ça m'arrive pour préparer des émissions, évidemment je regarde des émissions de télé et j'écoute des émissions de radio, ça m'arrive, c'est normal. Mais dans ma consommation quotidienne, c'est essentiellement de la presse écrite.
Qu'est-ce qui vous parle pas ou qu'est-ce qui vous repousse
Je sais pas, j'ai même pas de télé chez moi.
Ah oui, d'accord.
Ouais, non, c'est enfin, si j'ai une télé avec une console branchée dessus. Enfin, ça sert à ça une télé aujourd'hui. C'est pour la PS5, c'est pas pour. Non, mais je rigole à peine en fait. La télévision, le réflexe de la télécommande dans la main et j'allume la télé pour voir ce qui se passe, etc. Je l'ai complètement perdu. Je n'ai pas de rendez-vous télévisuel. 20h50 le film, 20h le JT et tout. Ça fait pas partie de mon quotidien. J'ai pas du tout cette temporalité là. Donc voilà.
Mais pourtant, Backseat, c'est un talk show, une émission politique avec des invités. Vous avez des chroniqueurs autour de vous. Vous reprenez des codes de la télé qui fonctionnent.
Mais c'est pas forcément des codes de la télé. C'est parce que de la même manière que la télévision reprend des codes de la radio. Je veux dire, s'y mettre plusieurs personnes autour de la table avec des micros devant la bouche, ça s'appelle faire de la radio. Tout le monde en fait. Bon, bah voilà, bah j'en fais aussi alors. Non, mais je veux dire, ouais. c'est pas qu'une question de code. Oui, il y a des caméras. Oui, on a un format 16/9. Oui, il y a des gens qui sont assis derrière un desk.
Mais sur le fond, c'est différent.
C'est qu'en tout cas, le dispositif est différent parce que Backseat est une émission qui est ancrée dans la culture web, qui s'adresse à un public qui est celui de la culture web. On est diffusé sur Twitch. On a un chat. Il y a un chat qui défile sur le plateau. Les chroniqueurs, moi, les invités, on lit un chat, on regarde les réactions du public, etc. Je veux dire, c'est pas révolutionnaire. Il s'agit pas de changer le monde. J'ai jamais eu la prétention de faire mieux que la télé. Je fais juste autre chose. Mais la télé, elle a ses codes, la télé, elle a sa grammaire, elle a son écriture. Les gens qui font de la télé, ils savent faire de la télé. Ils en font bien mieux que moi. D'ailleurs, je serais incapable de faire de la télé. Enfin, je pense pas. Donc voilà, chacun dans son couloir de nage, chacun sur sa plateforme, chacun son public.
Donc quotidien, c'est à vous, les émissions politiques, les chaînes d'infos, c'est pas des concurrents
pour Non, vous, c'est pour pas des concurrents, bien sûr que non, on est complémentaires. On s'adresse pas tout à fait au même public en termes de tranche d'âge, on diffuse pas sur la même plateforme. On n'a pas la même grammaire et la même écriture. Bon, mais c'est pas grave. Mais ce sont pas des mauvaises émissions. C'est des émissions qui sont... D'ailleurs, j'ai été chroniqueur pour C'est à vous. J'ai été chroniqueur sur LCI. J'ai été chroniqueur sur France Info. J'ai participé à des émissions de télévision. Voilà, c'est pas des mauvaises émissions. Ce sont des émissions de télévision.
Justement, vous avez travaillé pour des médias traditionnels.
Ouais.
Vous n'avez pas continué ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que ça me prenait énormément de temps, que le public qui était touché était d'une moyenne d'âge qui m'intéressait assez peu en termes de cible. Et que faut bien se rendre compte que moi, ma vie, c'est streamer politique. Et que ça veut dire que j'ai une émission par jour à animer. Et que c'est 4 ou 5 émissions par semaine de 3 heures, 4 heures chacune. J'ai pas le temps, en fait, de travailler avec les médias traditionnels. Voilà.
C'est un vrai
ça veut pas dire que je le ferai pas à l'avenir. D'ailleurs, on continue à faire des partenariats. Backseat est en partenariat avec Libération, avec L'Humanité. Voilà, on a fait des partenariats ponctuels. On en refera sûrement à l'avenir. Pourquoi pas avec des télés, pourquoi pas avec des radios. Je suis jamais fermé à l'idée de travailler avec, mais l'idée de consacrer mon temps à bosser pour, ça m'intéresse moins.
Dans votre émission, vous décryptez la politique, le jeu parlementaire, vous recevez même des personnalités politiques de premier plan, on l'a vu, François Ruffin, que vous interviewez, mais vous ne vous considérez pas comme journaliste.
Non, je me revendique pas du journalisme, mais je dis toujours que c'est pas une insulte journaliste. Donc si on m'appelle journaliste, ça me va. C'est pas méchant. On peut considérer.
C'est très bien.
Voilà, c'est très bien. Journaliste, c'est un très beau métier. On peut considérer que ce que je fais est assez analogue au métier de journaliste. C'est juste que je n'ai jamais eu besoin de me revendiquer du journalisme parce qu'on me l'a jamais demandé. Mon public me l'a jamais demandé. Les personnes que j'interview me l'ont jamais demandé. Mes partenaires me l'ont jamais demandé. Donc en fait, voilà, moi je suis streamer politique. Et puis par ailleurs, il y a il y a aussi un interdit déontologique dans le métier de journaliste, c'est l'interdit publicitaire. Un journaliste n'a pas le droit de faire de publicité. C'est un interdit catégorique. Or, il se trouve que moi, je suis influenceur et que dans le métier de l'influence, il y a des placements de produits. Donc, je suis aussi un panneau publicitaire. Et ça, c'est incompatible avec le métier de journaliste.
Parce que Backseat, c'est un modèle économique sur Twitch qui un peu vous oblige, en quelque sorte, pour avoir des moyens à faire des placements de produits.
Backseat, en l'occurrence, on a un financement qui est en grande partie participatif, c'est-à-dire que c'est notre public qui nous finance via des dons sur une plateforme de financement participatif avec des contreparties. Mais il y a toute une partie du financement qui vient aussi de partenaires privés qui viennent faire de la communication dans l'émission. C'est l'équivalent d'un placement de produit sur YouTube, si vous voulez. Quand on dit cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, ben nous, on a la même chose dans l'émission Backseat, où on vient présenter un partenaire qui vient faire passer un message, etc. Donc, c'est une partie publicitaire dans le cœur de l'émission. Et c'est moi qui présente cette partie-là, ce qui est, en principe, incompatible avec le métier de journaliste.
Vous avez aussi été de l'autre côté, du côté politique, collaborateur à la mairie de Paris, au cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine, c'était il y a plus de 10 ans.
Ouais.
Vous n'avez jamais été tenté vraiment par l'aventure politique, vous présenter à des élections ?
Non, justement, j'ai travaillé suffisamment près de la politique et suffisamment près des politiques pour me rendre compte que ce n'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir, que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Peut-être dans une deuxième partie de ma vie, on verra. Pour l'instant, je ne suis pas du tout attiré par l'écharpe tricolore, par l'engagement partisan, par l'engagement politique. Je suis quelqu'un d'engagé, je suis engagé pour la démocratie, je suis engagé pour l'éducation populaire, je suis engagé pour la démocratisation d'Internet. Donc je fais quelque chose d'engagé, ça a du sens ce que je fais, mais je ne m'inscris pas dans le champ politique. Je suis vulgarisateur, j'accompagne les gens dans la compréhension de l'actualité politique et c'est là mon engagement.
Vous n'êtes pas un journaliste, enfin, en tout cas, vous n'êtes pas un streamer de gauche revendiqué.
On me met où on veut. De toute façon, aujourd'hui, je veux dire, dans le monde politique dans lequel on vit, il suffit de pas être raciste pour être catalogué à gauche, ce qui est terrible, y compris pour la droite. Enfin, je trouve ça terrifiant qu'on en soit arrivé à ce niveau-là. Moi, je suis un démocrate et on me met où on veut et je laisse les gens libres des étiquettes qu'ils accolent à qui ils veulent.
Et qu'est-ce que vous avez vu de près dans la politique pour vous dire j'ai pas du tout envie d'y aller ? Qu'est-ce qui vous a dégoûté ?
Non, j'ai vu des personnes, les hommes et les femmes politiques, notamment celles et ceux pour qui j'ai travaillé, j'ai vu des personnes engagées, des personnes sincères dans leurs engagements, des personnes qui menaient des combats, qui menaient des luttes. J'ai trouvé que c'était audacieux, j'ai trouvé que c'était généreux, j'ai trouvé ça formidable. Mais j'ai vu aussi que c'était un monde, c'est un peu un panier de crabes, l'engagement politique, le fait d'être élu, les élections, les négociations, les partis politiques. Ça ne s'arrête jamais, il y a un caractère un peu insatiable. Et je sais pas, j'ai pas l'attrait pour le pouvoir, j'ai pas l'attrait pour l'influence, je préfère être engagé là où je suis.
30% des jeunes de moins de 35 ans ne se sentent proches d'aucun parti, ce sont les chiffres du CEVIPOF de l'année dernière. Pourquoi, selon vous, les partis n'arrivent pas à parler à la jeunesse ?
Il faut savoir que c'est pas spécifique aux jeunes. On est dans une crise de la démocratie représentative qui touche toutes les catégories de population. Davantage les jeunes que les autres, ça c'est vrai. Il y a un phénomène sur les jeunes. Mais il faut pas faire des jeunes des citoyens de seconde zone, une catégorie à part qui serait davantage touchée par le phénomène de l'abstention et avec des raisons spécifiques.
Et pourtant, ils s'abstiennent plus.
Ils s'abstiennent davantage parce que les jeunes n'ont pas trouvé de parti ou de responsable politique qui a réussi à leur parler. C'est une catégorie de la population qui est en découverte. La jeunesse, c'est les premiers votes, c'est les premiers moments où on s'intéresse, où on se rend vers un bureau de vote, où on s'intéresse à une campagne. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils en ont peur, parce que la politique les dégoûte, parce que la politique, ils en entendent parler souvent en négatif, avec des affaires, avec des atteintes à la probité, des choses comme ça. Donc forcément, c'est pas très reluisant, la politique. La politique, c'est pas très sexy et ça a pas vraiment vocation à être sexy. Les sujets dont on parle, c'est des sujets durs, des sujets graves. On parle de la guerre, on parle du pouvoir d'achat, on parle du chômage, on parle de la santé, du climat. C'est pas des sujets qui donnent forcément envie. Ceci étant, on remarque que les jeunes savent se mobiliser massivement dès lors qu'ils identifient des enjeux qui leur parlent. Et c'est le cas du climat, par exemple. Le climat mobilise beaucoup les jeunes. On sait que c'est un sujet très important pour eux. Ça peut être la question du racisme aussi, qui est un sujet qui peut mobiliser beaucoup les jeunes. Donc attention, quand on parle de la démobilisation des jeunes, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis par ailleurs, les jeunes s'engagent aussi en politique à leur manière. avec des formes qui sont un peu plus souterraines, qu'on a du mal à identifier. La bonne vieille adhésion à un parti politique, c'est un peu démodé. Les jeunes vont plus s'engager sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être un like, un partage, c'est déjà un engagement. C'est une prise de parole, c'est la signature d'une pétition, par exemple. C'est des manières aussi de s'engager. Il faut pas hiérarchiser en se disant que parce que les jeunes ne votent pas, ou votent moins, ou adhèrent moins à des partis politiques, ils sont désengagés, c'est pas vrai.
On est ensemble avec Jean Massier, streamer politique, présentateur de Backseat. On marque une pause musicale, on écoute Rien à fêter, le nouveau titre de Camille MB.
Je traîne pas n'importe où, c'est pété. Je me dévote mon cours, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux toits écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue, on fait que boire, on a rien à fêter. Putain, mon date de ce soir vient de se faire arrêter. Où est le traquenard dans ma rue? Je vois les mêmes gens tous les jours. Et tous les jours, la boulangère me dit que c'est la merde. Je ne s'appelle son pote par le balcon. Chez moi, c'est laid, donc attends-moi sur le paillasson. À ton allure, je sais que ta vie, ben c'est la même. Même tête, même rêve, même quartier populaire. Je ne s'appelle son pote par le balcon. Chez toi, c'est laid aussi, donc viens à la maison. Je traîne pas n'importe où, c'est pété. Je me dévête mon cours, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux toits écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Putain, mon date ce soir vient de se faire arrêter. Mes chansons racontent la même chose. Je dois me répéter sans arrêt pour que tu comprennes les raisons qui font que je suis de travers sans cesse. Dis-moi, est-ce que je ressemble à quelque chose? Tout est dans l'ADN. J'ai pris les rêves et les névroses. Se met dans ma rue, se met dans ma tête. Je traîne pas n'importe où, c'est pété. Je me dévête mon cours, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux toits écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant, je suis jeune, lettre noire et le nez épaté. Dans ma rue, on fait que boire. Putain, mon date ce soir vient de se faire arrêter.
C'était Rien à fêter, tiré du tout premier album de Camille MB, Nouveau visage de la pop, sorti vendredi dernier. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonne nouvelle, nous sommes avec Jean Massier, streamer aux commandes de l'émission politique Backseat, diffusée sur Twitch.
Radio Campus Paris, carte de presse.
Jean Massier, on l'a dit, l'élection présidentielle, c'est dans moins d'un an. C'est votre deuxième campagne que vous vivez avec l'émission.
Deuxième avec Backseat, oui.
Ouais. Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Le Rassemblement national est donné favori dans tous les sondages. Je précise qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella sera sur la ligne de départ. Est-ce que vous vous fixez comme mission de combattre le RN à travers Backseat aussi ?
Bien sûr, combattre l'extrême droite pour ce qu'elle représente comme danger pour la démocratie. C'est pas une fixation particulière sur le Rassemblement national parce que c'est le Rassemblement national. Non, c'est contre l'extrême droite et ce qu'elle porte et les valeurs qu'elle porte. Backseat est une émission profondément démocrate. Le Rassemblement national est un parti profondément antidémocrate. Donc évidemment qu'on se bat contre le RN à notre manière, en informant, en discutant, en proposant un talk show d'actualité politique, en mobilisant les jeunes, en les incitant à s'intéresser à la politique. C'est notre manière à nous, c'est notre pierre à l'édifice du combat antifasciste.
Vous n'avez pas peur de vous aliéner les jeunes qui peuvent être séduits par Jordan Bardella, par Sarah Knafo ?
Et ben c'est pas grave, on peut pas séduire tout le monde. Des jeunes qui sont séduits par Sarah Knafo et Jordan Bardella, ils vont pas être séduits par Backseat, ils vont pas être séduits par un projet d'éducation populaire. Ils sont plutôt séduits par un discours autoritaire, ils le trouvent là où ils ont envie de le trouver, mais on peut pas plaire à tout le monde.
Alors comment on fait changer d'avis des jeunes qui, pour leur premier vote, vont peut-être décider là, de voter Jordan Bardella?
Et ben, en expliquant en quoi les valeurs démocratiques sont plus intéressantes pour la société, sont mieux qu'une une société diverse, une société plurielle, une société solidaire est plus intéressante pour tout le monde qu'une société individualiste renfermée sur elle-même. Il n'y a pas que Baxit qui va mener ce combat, c'est un combat culturel, c'est un combat médiatique, c'est un combat collectif qui doit être mené. Il y a des orgas, il y a des gens, il y a des personnalités, et puis il y a tout à chacun, et chacun à sa manière, à son échelle, peut participer à défendre la démocratie.
Alors les personnalités d'extrême droite, justement, vous ne les recevez jamais. Dans Baxit. Vous allez continuer pour la présidentielle?
Oui, bien sûr, c'est une règle qu'on s'est fixée. On ne tend pas le micro à l'extrême droite, on ne discute pas avec l'extrême droite, on la combat. On maintient ce qu'on appelle le cordon sanitaire qui a existé en France pendant des années, qui existe encore aujourd'hui en Belgique francophone. On se tient à cette discipline-là. On ne discute pas avec l'adversaire de la démocratie. On ne succombe pas au paradoxe de la tolérance. On joue pas à ce jeu-là. Mais ça veut pas dire que les autres doivent pas le faire. Je veux dire, encore une fois, je veux pas être donneur de leçons ou prescripteur de comportement. Si d'autres médias, pour des raisons différentes, avec des lignes éditoriales différentes, considèrent que c'est de leur rôle et de leur responsabilité que tendre le micro à l'extrême droite, je peux le comprendre. C'est pas le choix que je fais, mais c'est un choix. Et j'assume de faire un choix. Il faut qu'ils assument de faire un choix aussi.
Alors certains vont vous dire, ils sont à 35%, ils sont à 40%, ils représentent des millions de Français.
Ils pourraient être à 99%, ça change rien, c'est pas le sujet. C'est pas une question de nombre. On n'est pas là pour faire plaisir à des clientèles électorales. C'est pas notre rôle, on a un public auquel on s'adresse. Alors ça, franchement, c'est pas un argument.
Et peut-être les recevoir pour les contredire, pour leur apporter la contradiction avec vos chroniqueurs. Vous pensez que ça ferait quand même une promotion?
Mais bien sûr, évidemment, bien sûr. D'autant que le Rassemblement National est dans une stratégie de dédiabolisation, qu'il joue parfaitement à plein ce jeu médiatique du costume-cravate sur un plateau, du discours sérieux, poli, bien élevé, qui fait genre de passer pour une droite traditionnelle, alors qu'en réalité, ça reste une extrême droite radicale, raciste, antisémite, climaticide, etc. Enfin, je veux dire, nous, on ne veut pas jouer à ce jeu-là. On ne veut pas jouer à ce jeu-là avec ce camp-là. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour la démocratie et surtout c'est trop dangereux pour les minorités, pour des personnes qui sont mises en fragilité par ces personnes-là, pour les personnes racisées, pour les femmes, pour les homosexuels. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont mis en danger par le discours du RN.
Alors justement, vous parlez de climaticide, vous parlez du climat tout à l'heure. Le climat, justement, on n'en entend plus trop parler, c'est plus un enjeu majeur des élections.
Ça va peut-être le revenir cet été avec la canicule.
Est-ce que votre rôle à vous, c'est aussi de parler de sujets dont les médias traditionnels ne parlent pas
non.
assez?
En tout cas, c'est pas l'ambition éditoriale de Baxit. Baxit est un talk show d'actu politique, ce qui veut dire qu'on parle de l'actu politique, ce qui veut aussi dire que c'est l'actu qui nous impose les sujets dont on parle. Là, cette semaine, à l'heure où on enregistre cette émission, l'actu de la semaine a été marquée par le Festival de Cannes avec la pétition qui a été signée par 600 personnalités du monde du cinéma contre Vincent Bolloré. C'est une actu politique. Donc, on en parle dans l'émission Baxit du jeudi. On n'a pas décidé, cette semaine, de dire « Tiens, si on parlait de culture !» Non, c'est juste qu'il y a une actu qui a été mise sur la table et nous, on se saisit des actus qui sont posées sur la table. Donc, on thématise assez peu l'émission Baxit. En fonction de l'actu, ça peut nous arriver de recevoir sur le plateau des responsables, des climatologues, de recevoir des scientifiques qui viennent nous parler de sujets précis, mais c'est toujours des sujets d'actu. On fait pas d'émission, on n'est pas un magazine, je vais le dire ça comme ça. Voilà.
Aujourd'hui, avec Baxit, vous recevez des personnalités politiques de premier plan. Elles sont plutôt habituées à faire de la télé. Qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'elles viennent chercher à Baxit, qu'elles ne peuvent pas aller chercher sur un plateau de quotidien, sur un plateau de C'est à vous, sur un 20h.
Oui, c'est vrai. Je, contrairement à ce qu'on peut croire, les politiques sont assez lucides sur le décrochage des jeunes et de la politique. Ils savent très très bien que les jeunes s'abstiennent, que les jeunes n'écoutent pas les politiques ou assez peu, qu'ils en ont un rapport très critique. Donc quand on leur lance une invitation à venir sur le plateau de Baxit, les politiques en général sont séduits par cette proposition de s'adresser à un public qu'ils ont du mal à toucher et ils savent qu'ils ont du mal à le toucher. Donc à mon avis, c'est ça que viennent chercher les politiques en venant sur Twitch, en venant sur Baxit. C'est un public particulier. Une audience plus jeune. Je crois aussi que ce que viennent chercher les politiques sur Baxit, c'est le format de l'émission. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire
le format long,
d'une part, et format cash. Enfin, on se dit les choses, on est là pour parler politique.
Ça peut faire peur.
Au contraire, les politiques adorent ça. Contrairement à ce qu'on pense, les politiques, ils adorent être bousculés.
Sortir des éléments de langage.
Enfin, nous, c'est notre boulot de les faire sortir. Après, on est responsable de nos questions, ils sont responsables de leurs réponses, comme on dit. Mais moi, je trouve, je, je, En fait, les politiques, ils sont sincères dans leur engagement. Ils ont des idées, ils ont des opinions, ils ont des projets, ils ont des programmes, ils ont des envies, ils défendent leur lutte à leur échelle dans le sens qui les importe. Les politiques préfèrent quand on vient parler des sujets qui fâchent, plutôt que de parler de la météo, de la cuisine ou je sais pas quoi. Politiques, ils font de la politique, ils la font pas pour rien. Ils la font parce qu'ils ont envie de la faire. Donc quand on vient sur un plateau comme celui de Baxit, on est aussi content de venir pouvoir s'exprimer sur le sujet qui fâche, le sujet d'actu, là, le sujet de cette semaine où c'est le bordel, où c'est n'importe quoi, on est pris à défaut et tout. Voilà. Donc en fait, les politiques, ils aiment bien venir sur Baxit.
C'est quoi votre meilleur souvenir, votre meilleur invité, votre meilleure interview à Baxit? Le politique qui vous a le plus étonné
On a fait plus d'une centaine d'émissions Baxit. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question. On a fait des émissions très différentes les unes des autres. On a fait des interviews très différentes les unes des autres. Je pourrais pas vous donner un exemple d'une interview particulièrement réussie parce que c'est des interviews d'actu en fait. C'est toujours des interviews d'actu. On avait reçu Aurélien Pradier au moment où il avait décidé de ne pas voter la réforme des retraites. C'était un moment assez important. On avait reçu.
C'est le moment où vous étiez premier sur Twitch.
Ouais, carrément. Oui, oui, exactement.
Dans le monde.
Non, je sais pas si ce soir-là on était premier. Ça c'était au moment du 49-3. 49-3, Elisabeth Borne, numéro 1 monde. Non, on a reçu Xavier Bertrand récemment aussi, nous expliquer les bisbilles qu'il a avec les Républicains sur la ligne, ouais, notamment antiraciste.
Vous voyez Xavier Bertrand.
Oui, parce que je le connaissais pas. C'est la première fois de ma vie que je le rencontrais. Et je sais pas, on avait reçu Philippe Martinez le soir de la première grande manifestation contre la réforme des retraites. Et Philippe Martinez, patron de la CGT à l'époque, avait préféré venir sur Baxit plutôt qu'au journal télévisé de TF1. Il avait choisi Baxit. Il était trop content. Il m'avait dit, hein, il me dit, oh, franchement, je préfère parler aux jeunes. Moi, je suis content de venir sur Baxit plutôt que sur le JT de 20h. J'en ai déjà fait des JT de 20h, j'en ferai d'autres. C'était assez marrant. Donc voilà.
Vous avez cité comme exemple pour prouver justement que les jeunes n'étaient pas forcément dépolitisés, vous avez cité le jeu vidéo Minecraft.
Dans mon livre, ouais.
Où parfois les jeunes s'organisent, ouais, ont des serveurs, et donc il y a des enjeux d'autorité, d'organisation collective. En fait, les jeunes, ils sont engagés, simplement, la politique politicienne, ça ne les intéresse pas.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'appelle la politisation sous les radars. C'est-à-dire que quand on parle de politique, en fait, on fait référence sans le vouloir aux élections. Tout le monde pense à ça. Quand on dit le mot politique à quelqu'un dans la rue,
les
gens pensent aux élections, on pense au jeu électoral, on pense aux personnalités politiques, on pense aux partis politiques et on pense aux élections. C'est ça, la politique. La réalité, c'est que c'est pas ça, la politique. En tout cas, la démocratie, c'est aussi des formes d'organisation, c'est aussi des droits, c'est aussi des protections, c'est aussi des institutions, c'est aussi des lois, c'est beaucoup de choses, la démocratie. Mais quand on parle des jeunes et de la démocratie, moi, je me permets de faire remarquer que les jeunes savent s'organiser. Créer des orgas, créer des collectifs, aller dans le même sens, tirer dans la même direction. Et ça peut être un serveur sur un serveur Minecraft, ça peut être un forum sur Internet, ça peut être un collectif complètement informel sur une page Facebook. Ça peut être ces choses-là, mais ce sont des formes d'organisation collective. Alors effectivement, c'est un peu plus gazeux, c'est un peu plus évanescent, c'est pas une association loi 1901 déclarée en préfecture, d'accord, c'est moins formel. Mais ça reste des formes d'engagement, des formes de proto-engagement. Et ça participe de la politisation des jeunes. Donc c'est pour ça que moi, je veux réhabiliter ces formes d'engagement de la jeunesse dans des projets, dans des trucs qu'on trouve notamment sur Internet, mais qu'on trouve aussi sur les campus, qu'on trouve aussi dans les lycées, voire dans les collèges où des jeunes s'organisent.
Est-ce que les hommes et les femmes politiques, selon vous, ressemblent à la société aujourd'hui ?
Bah non, on a toujours des disproportions de représentativité qui sont pas bonnes dans le personnel politique. Ça a tendance à s'améliorer avec le temps, mais très doucement, trop doucement par rapport à ce que je pense la société attend. La parité femmes-hommes progresse lentement, mais elle progresse quand même. Dans les conseils municipaux, c'est le cas avec la parité obligatoire sur les listes électorales. C'est le cas aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il y a un problème de représentativité aussi d'un point de vue sociologique, où il y a encore une surreprésentation des classes les plus dominantes de la société dans les cercles de pouvoir, y compris pour les élus, donc y compris les hommes et les femmes politiques. Et ça prend du temps à bouger. Voilà, ça prend du temps à bouger.
Est-ce que comme vous, il y a un sujet sur la forme, peut-être Vous disiez quand les gens voient un costard cravate à la télé, ça les rebute. Est-ce que il faudrait aussi des députés en t-shirt, en basket, ou est-ce que ça, c'est quand même plus profond que ça?
Ça a été le cas de François Ruffin, par exemple, qui avait beaucoup mis en avant ce côté député en jean, député au SMIC. Je pense que ça peut aider, je pense que ça peut participer, je pense que c'est important de voir des visages. Bon, entre nous, le vêtement qu'il porte n'est pas très important, que ce soit un costard, une chemise, un t-shirt dans le pantalon, je m'en fous, enfin, c'est pas très important, mais la question c'est ce à quoi ressemblent les gens qui nous représentent, y compris en termes de mixité sociale, et c'est surtout ce que racontent les gens. C'est ce que racontent les politiques, c'est des sujets dont ils se saisissent. Est-ce que nos institutions sont des caisses d'écho pour ce à quoi les Français font attention, ou ils sont inquiets? En ce moment, il y a une augmentation du prix de l'essence, ça inquiète beaucoup de gens. Bon, à l'Assemblée nationale, on parle beaucoup de ça en ce moment. C'est un enjeu, c'est un sujet de débat. Ça s'engueule, ça discute, on parle de privatisation de Total, on parle de baisse des taxes, on parle de blocage des prix, on utilise des mots, etc. Tout ça, c'est du jargon un peu compliqué, mais ça montre qu'en tout cas, il y a une bonne partie de la classe politique qui s'intéresse au sujet.
Et en vulgarisant tous ces enjeux-là, en vulgarisant par exemple ce qui se passe à l'Assemblée, le jeu parlementaire qui peut parfois être un peu obscur,
ouais.
Est-ce que vous vous dites il y a un travail de pédagogie à faire, ou est-ce que vous vous dites c'est quand même très compliqué, il y a des choses à réformer?
Oh, les deux. Il y a plein de trucs à réformer. Je pense qu'un parlement au 21e siècle, il faudrait qu'on le réinvente. Il faut qu'on réinvente le parlementarisme au 21e siècle, en gardant ce qu'il faut garder, ce qui est très important dans le parlementarisme, dans son fonctionnement, dans ses garde-fous, dans son contre-pouvoir, dans ses contre-pouvoirs, dans ses procédures qui protègent, y compris les minorités politiques et tout. Donc, voilà. Mais il faut réinventer le parlement à l'ère du numérique. Il faut repenser, je pense, un certain nombre de choses. Ceci étant, je pense qu'il y a quand même un travail de pédagogie à faire. Je pense que balayer d'un revers de main le parlement en disant tout ça, c'est des pourris, où tout ça, ça fonctionne mal, c'est à chier. Je pense que c'est démagogue et c'est un peu de la paresse intellectuelle que de dire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur le fonctionnement du Parlement, ne serait-ce que parce que, qu'on le veuille ou non et que ça nous fasse plaisir ou non, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se vote, c'est là que ça se décide, c'est là qu'on a un gouvernement, pas de gouvernement, un budget, pas de budget, une censure, pas de censure. C'est là que ça se passe. Donc il faut vulgariser. Il y a évidemment un travail à faire qui est un travail compliqué, un travail de longue haleine. Moi, c'est mon taf depuis plus de 10 ans de faire ça. Et j'ai à peine commencé à soulever le début du capot, quoi. Il y a encore beaucoup de travail et il faut qu'on continue. Mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à des améliorations, des changements, des modifications, des réformes. Moi, je suis super chaud pour une 6e République. Je ne sais pas encore laquelle. Il faut qu'on en discute dans un cadre collectif et démocratique. Mais je suis super chaud pour repenser le fonctionnement de notre appareil politique, de notre jeu électoral, des partis politiques. Il y a plein de choses à faire évoluer. Il y a aussi beaucoup de choses à garder.
Vous avez un modèle en tête ?
Et à protéger. Non, j'ai pas de modèle particulier. Non. Je me méfie de ce qu'on appelle le biais d'exotisme. On regarde à l'étranger et on se dit, on va faire exactement la même chose qu'eux et c'est formidable, comme si la Corée du Sud était parfaite, comme si la Suisse était parfaite, etc. Je me méfie de ça, mais il y a quand même des éléments qu'on peut prendre en compte. Par exemple, un élément qui fait irruption dans notre vie politique, c'est le citoyen. Pendant très longtemps, le citoyen n'existait pratiquement pas. On parlait d'électeur. Il y avait l'électeur. Voilà, l'électeur, il était invité à mettre son bulletin dans l'urne sagement tous les 5 ans. Et puis ensuite, le reste du temps, il avait le droit de manifester, de faire grève. C'est à peu près tout. Maintenant, on a le citoyen. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a eu les printemps arabes, on a eu Nuit debout, on a eu des émergences, les manifs climat, etc. Des émergences de citoyens qui veulent participer, prendre la parole pendant le mandat, pendant que la politique se fait, en cours de fabrication de la politique. Banco, moi je trouve ça formidable. Inventons une démocratie participative, inventons des modes de participation des citoyens. Alors ça peut passer par des référendums d'initiative citoyenne si on veut, ça peut passer par un droit de pétition révisé, amélioré, qui est plus efficace, ça peut passer par un droit d'interpellation citoyenne, un droit d'amendement citoyen, un droit d'implication et un droit de regard, la transparence, la probité des élus, tout ça, ça participe de l'implication du citoyen dans la vie politique. Mais moi je veux qu'on commence par se réjouir du fait que les citoyens ont envie de participer, c'est quand même chouette. La démocratie est paradoxalement pas si en crise que ça, puisqu'on a des gens qui ont envie de faire de la politique. Commençons par se réjouir de ça et mettons en place les mécanismes qu'il faut pour qu'on puisse satisfaire cette demande.
Alors vous avez l'air plutôt optimiste.
J'essaie de le rester, oui. Je sais bien qu'on est probablement à un an de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, donc c'est
ce que j'allais vous dire.
Ouais.
Parce que c'est dans moins d'un an même.
Ouais.
Ça peut arriver pour vous ?
Oui, bien sûr, la victoire de l'extrême droite en France est possible. L'extrême droite, c'est le premier camp politique d'Europe. Ça l'est devenu là au cours de 2025-2026. Le Rassemblement national est le premier parti de France, plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Il faut surtout pas faire l'erreur de minorer le risque. Je pense qu'il faut regarder cette réalité en face. L'extrême droite a déjà remporté des élections en Europe. On l'a vu en Hongrie, même si ça s'est mal fini pour Orban. On l'a vu avec Meloni en Italie. On le voit au Royaume-Uni où c'est pas loin de passer. Donc c'est pas du tout impossible que l'extrême droite revienne au pouvoir en France. À l'occasion des élections de 2017. Je dis bien les élections parce que je rappelle qu'il y a la présidentielle, mais que dans la foulée, on va avoir des législatives et que c'est beaucoup aux législatives que ça va se jouer. La question de savoir qui va gouverner le pays pendant les 5 prochaines années. C'est pas tant la présidentielle que les législatives, et c'est peut-être au moment des législatives qu'il faudra... De toute façon, il faudra se mobiliser aux législatives et j'espère pas qu'on en sera à cet extrême-là, mais qu'on soit obligé de faire bloc, de faire front. Républicain en l'occurrence, contre l'extrême droite. Donc il va falloir se battre. Mais moi, je ne me battrai pas en étant défaitiste. Je me battrai en étant joyeux, souriant, en disant, les gars, on peut le faire. On peut faire une meilleure démocratie, on peut faire une meilleure république, ouais, on peut. On peut améliorer les choses. C'est possible. C'est pas facile. On va pas mal s'engueuler, on va discuter, on va s'organiser, ça va être compliqué, mais en fait, c'est accessible. On peut y arriver.
Dernière question, qu'est-ce que vous préparez pour la campagne comme dispositif? Vous allez recevoir les candidats?
On va essayer de recevoir des candidats à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si on va réussir à tous les recevoir. Ça va être compliqué. On va essayer de faire vivre l'émission Baxit. Et pour ça, on a besoin de l'argent des gens qui nous suivent, des gens qui nous soutiennent, des gens qui pensent que Baxit est une émission qui a sa place, qui est une bonne émission nécessaire sur Internet. On a besoin que ces personnes-là nous donnent de l'argent sur notre page Ulule. C'est ça qui nous permettra de produire des émissions. On prévoit une fin d'année... En fait, il y a la présidentielle et la législative coup sur coup. Ça veut dire qu'on va devoir faire beaucoup d'émissions entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc, il va falloir qu'on s'économise un petit peu sur le début d'année. On fera probablement moins d'émissions, en tout cas moins récurrentes en début de saison à partir de septembre pour se préserver et se garder des émissions de côté pour la fin de l'année. Donc voilà. Mais en termes de dispositif, oui, recevoir des candidats et continuer avec nos chroniqueurs à discuter, analyser cette campagne présidentielle. C'est pas rien, une campagne présidentielle, c'est un moment important, c'est un rendez-vous démocratique important. Il y a une effervescence, il y a aussi une effervescence intellectuelle. Il y a des personnalités qui s'affrontent, mais il y a aussi des lignes politiques qui s'affrontent. Il y a des lignes de fracture, il y a des lignes de convergence aussi. Bon, on va analyser tout ça, on va regarder, on va commenter.
Merci beaucoup Jean Massier.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Carte de presse est une fois par mois sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, en DAB+, mais aussi en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.